Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les États-Unis et l'Allemagne à l'unisson sur le dossier syrien. Washington et Berlin accusent la Russie de barbarie pour les raids menés à Alep avec le régime de Bachar al-Assad. Dans ce journal, nous reviendrons sur une année d'implication de Moscou dans le conflit syrien.
À suivre également le réchauffement climatique qui se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu. Rapport alarmant de scientifiques dont Robert Watson, ancien président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Rosetta va quitter la scène sur un crash finale, une fin spectaculaire pour une mission spatiale historique. La sonde européenne Rosetta va s'écraser volontairement à la mi-journée sur la comète Chury. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot reviendra sur le bilan controversé du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi.
Question du jour, on reste dans le domaine des impôts. Prélèvement à la source, est-ce vraiment un progrès? Sujet du jour, Barack Obama, racisme, inégalité, une présidence en demi-teinte.
100 000 enfants se retrouvent pris au piège dans les quartiers rebelles d'Alep, bombardés depuis une dizaine de jours par le régime de Damas et son allié, Moscou. L'ONG Save the Children affirme que ces enfants ne sont désormais en sécurité nulle part, pas même dans les écoles souterraines censées les protéger des bombardements, à cause de l'utilisation de bombes anti-bunker capables, comme leur nom l'indique, de perforer un bunker. Des bombes qui constituent un potentiel crime de guerre selon l'ONG, un avis partagé par les États-Unis et l'Allemagne. Le président Barack Obama et la chancelière Angela Merkel se sont entretenus hier au téléphone, condamnant avec force les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, où vivent ou survivent 250 000 personnes. Pour Moscou, pas question pour autant de céder aux injonctions des Américains ou des Européens. Le Kremlin a annoncé hier la poursuite des bombardements après un an de frappes aériennes en Syrie. Luc Lemonnier.
Ils sont présents dans le ciel syrien, très officiellement dans la coalition contre Daesh, plus sournoisement en soutien de l'armée syrienne, la technologie militaire utilisée contre Alep, bombes perforantes et incendiaires, ne laisse dorénavant planer aucun doute. Ils sont présents au sol, quelques milliers de soldats, à l'arrière du front pour la logistique, le renseignement ou la formation, et en première ligne par l'intermédiaire de mercenaires privés, les Tcheveka du groupe Wagner, un millier de chiens de guerre entraînés en Russie, dirigés par d'anciens soldats d'active, en lien avec le Kremlin et qui, à l'image des Blackwater américains hier en Irak, mènent des opérations de combat. Dans le ciel, au sol, pour pas trop cher, environ 3 millions de dollars par jour, et sans doute pour longtemps, les intérêts de Moscou sont ici multiformes. Une base aérienne à Latakié, une base navale à Tartous, une base sous-marine à Djablé, peut-être bientôt une base radar à Palmyre. Et surtout, pour la première fois depuis un quart de siècle, le sentiment que la Grande Russie est de retour sur la scène internationale, et tant pis pour les civils d'Alep.
Et face à Washington qui a menacé hier une nouvelle fois de geler son dialogue avec la Russie, si le carnage d'Alep ne prenait pas fin, Moscou a répliqué « une rupture diplomatique serait le meilleur cadeau pour les terroristes ». Autre relation diplomatique tendue pour les États-Unis avec l'Arabie Saoudite. En cause, le Congrès américain a rejeté mercredi un veto du président Barack Obama sur une loi autorisant les familles des victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre en justice l'Arabie Saoudite. Un vote du Congrès ressenti comme un coup de poignard dans le dos par Riyad. Selon plusieurs experts, l'Arabie Saoudite pourrait riposter en réduisant sa coopération avec Washington, notamment dans le contre-terrorisme.
7h04 sur France Culture, l'heure de rappeler que les températures s'emballent, préviennent sept grands climatologues, Catherine Dutu.
Alors que se tient aujourd'hui un conseil extraordinaire des ministres européens de l'environnement, aujourd'hui à Bruxelles, les 28 doivent s'entendre pour ratifier l'accord de Paris sur le climat avant la COP22 en novembre prochain à Marrakech. Il y a urgence, indique un groupe international de scientifiques. Au rythme où vont les choses, il sera impossible de limiter la hausse des températures à 2 degrés de plus. Plus d'ici à 2050, ce seuil pourrait être atteint bien plus tôt que prévu, Sandy Dauphin.
La vérité sur le changement climatique, c'est le titre percutant de cette analyse publiée par l'ONG, le Fonds écologique universel. L'accord de Paris conclu à la COP21 est un pas en avant, dit ce rapport. Mais son objectif, rester sous le seuil fatidique des 2 degrés, paraît presque utopique. Les pays ont fait des promesses pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais mises bout à bout, on est loin du compte, estime l'un des co-auteurs, Robert Watson, ancien président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Même si toutes les promesses sont tenues, en 2030, les émissions de gaz à effet de serre seront comparables à celles d'aujourd'hui, environ 54 gigatonnes d'équivalent CO2 par an. Alors que pour rester sur la trajectoire des 2 degrés, il faudrait limiter ces émissions à une quarantaine de gigatonnes par an en 2030.
Et la conclusion de cet ancien président du GIEC est sans appel. Pour un monde à 2 degrés, il faut doubler les efforts promis par chacun des pays à la COP21.
Sandy Dauphin pour France Culture. Elle a été commissaire européenne en charge du climat de 2010 à 2014. La Danoise Connie Hedegaard va maintenant intégrer le groupe Volkswagen un an après le scandale des diesels truqués. L'ancienne commissaire européenne siégera au Conseil international de la durabilité mis en place par le constructeur automobile. Les funérailles de Shimon Peres à Jérusalem ce matin commenceront vers 9h heure française autour de la dépouille du Nobel de la paix, mort mercredi à l'âge de 93 ans. Une centaine de dirigeants européens, parmi lesquels le président américain Barack Obama, ses homologues français ou allemands, le prince Charles, le roi d'Espagne, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, sans doute le seul dirigeant d'un pays arabe présent à ses obsèques. On y revient dans le journal de 7h30. En France, le Sénat a rejeté hier l'amendement du gouvernement destiné à élargir le délit d'entrave à l'IVG. Le texte visait à créer un délit d'entrave numérique car c'est désormais sur le web que le droit à l'avortement subit ses attaques à la fois les plus dures et les plus subtiles. Les militants anti-IVG ont désormais des stratégies numériques pour atteindre les plus jeunes. Nous vous en parlions d'ailleurs mercredi dans un choix de la rédaction à retrouver sur franceculture.fr. Hier donc, le Sénat à majorité à droite a estimé que l'amendement pour créer ce délit d'entrave numérique était en fait un cavalier législatif. En clair, le texte n'aurait aucun rapport avec le projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté. Des arguments contestés par Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes.
S'assurer que chaque jeune, chaque femme peut accéder à des informations fiables sur l'IVG, ça a un rapport très clair avec l'égalité et la citoyenneté. D'autant que l'amendement était rattaché à un article 17 qui concernait justement l'information des jeunes en matière de santé. La procédure qu'a utilisée le Sénat, l'irrecevabilité à l'égard d'un amendement gouvernemental, est exceptionnelle. C'est même une première. Jamais elle n'avait été auparavant utilisée. J'ai donc du mal à dissocier la forme du fond et je crois que l'utilisation de cette procédure sur cet amendement est en fait la volonté du Sénat de ne pas débattre de la question de l'accès à l'information en matière d'IVG. Ce qui me désole, c'est que le Sénat ait fait le choix de ne même pas en discuter, de ne pas délibérer. Cet amendement aurait dû être débattu en séance. Après, le Sénat, dans sa grande sagesse, aurait choisi de l'adopter ou non. Mais je crois que lorsqu'on observe les contenus, quand on connaît les informations qui sont diffusées sur ces sites, il y a de quoi débattre au Parlement. Comme cette mesure relative aux fausses informations sur des faux sites d'information sur l'IVG, qui sont en réalité des sites militants anti-IVG, m'avait été donné et j'avais été alerté auparavant à la fois par des associations mais aussi par des parlementaires, des députés ont proposé de déposer une proposition de loi dans les meilleurs délais. Il y aura un examen de cet amendement ou de cet article de proposition de loi dans les semaines qui viennent.
Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, invitée de Stanislas Vazak hier dans le journal de 22h de France Culture. C'est une alerte de nos confrères de l'AFP dans la lutte contre le groupe État islamique. Un nouvel acteur, des rafales du Charles de Gaulle sont entrées en action. C'est ce que l'on vient d'apprendre du ministère de la Défense. Toujours en France, il représente plus de 15 millions de personnes et autant d'électeurs potentiels. Les retraités ont manifesté hier partout en France à l'appel de plusieurs syndicats pour demander la revalorisation de leurs pensions. Pas d'augmentation encore cette année à cause d'une inflation quasi nulle et leur pouvoir d'achat de diminuer en moyenne de 2% tous les ans. Aujourd'hui, en moyenne, un retraité perçoit 1300 euros par mois. 600 000 d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans une société vieillissante, leur voix reste peu entendue. D'ailleurs, ils n'étaient pas nombreux hier à Paris, entre 1000 et 5000 selon les organisateurs. Et pourtant, pour 2017, ce qui représente 30% du corps électoral pourrait s'avérer décisif. L'analyse du sociologue Serge Guérin, spécialiste des questions de vieillissement de la population à l'INSEC.
On ne se rend pas compte que les retraités sont une force électorale énorme. D'abord parce qu'on a le droit de vote, et heureusement jusqu'au dernier jour de sa vie. Deuxième élément, parce que les retraités, par tradition, sont des gens qui sont plus liés à une forme de légitimité, donc pour eux c'est normal de voter. Et donc en moyenne, ils votent toujours 15 points au-dessus des autres générations, en particulier des plus jeunes. Donc ils ont un poids électoral extrêmement important. Et en même temps, on leur parle finalement assez peu. On ne fait pas carrière en politique sur le vieillissement. On ne fait pas carrière en politique sur les questions des retraites. Et puis en termes d'image, c'est quand même beaucoup plus chic de couper le ruban pour une nouvelle maternelle ou pour des choses comme ça, de dire voilà, c'est l'avenir. Sous-entendu, les vieux, ce ne serait pas l'avenir. Or, c'est l'avenir d'abord parce que tout le monde vieillit. C'est l'avenir parce que c'est une source d'emploi extraordinaire. C'est l'avenir parce qu'il y a du développement économique derrière. C'est l'avenir parce que les 15 millions de retraités, ce sont beaucoup d'acteurs sociaux. Sans les retraités, le tissu associatif en France s'écroule. Il y a des millions de retraités qui accompagnent un proche qui est, par exemple, en très forte difficulté en termes de perte d'autonomie, de santé et autres. Il y a 32% des maires de nos communes, en particulier des toutes petites communes, qui sont des retraités. Enfin voilà, s'il n'y avait pas la mobilisation des retraités, le pays irait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui.
Le sociologue Serge Guérin, interrogé par Bénédicte Robin. C'est la fin d'une odyssée spatiale de plus de 12 ans. Rosetta vit ses dernières heures. La sonde spatiale européenne arrivée en orbite de la comète Chury en août 2014 à 6 milliards de kilomètres de la Terre va se cracher volontairement sur le corps glacé vers 13h20, heure française. La fin d'une mission inédite et riche d'enseignements. Jamais, en effet, on n'avait pu observer et étudier avec 11 instruments différents un corps aussi primitif du système solaire. Aujourd'hui, en guise de bouquet final, Rosetta termine son périple sur la comète en continuant à envoyer ses données. Et il y en a eu des découvertes en 24 mois de mission Rosetta sur la porosité, la gravité, le champ magnétique, l'activité au plus près du Soleil ou encore le remodelage permanent de la surface. De quoi enthousiasmer Valérie Charletti, professeure à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et membre de l'équipe Rosetta.
Les images sont exceptionnelles. C'est vrai que quand on voit ces images, on a l'impression parfois d'être devant des murs de roche, dans les Alpes. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois qu'on voit de si près, ça c'est sûr. C'est la première fois qu'on est capable de mesurer le champ magnétique à la surface, de regarder la dureté de ce noyau, parce que pour ça, il faut pouvoir toucher.
Comme si on tapait du pied.
Et c'est exactement ça. On frappe et on écoute. Donc, il y a un nombre incroyable de premières. Bien entendu, ce n'est pas ma spécialité, mais aussi avoir accès aux molécules. On a détecté des molécules à la surface, on détecte aussi des molécules dans la chevelure, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, aussi le fait de savoir, par exemple, on a toujours dit que des comètes, c'était des boules de neige un peu sales. Et en fait, quand on regarde le noyau de la comète, on voit très peu de glace, finalement, parce que il y a cette couche de poussière et pourtant il y a de l'eau qui sort, donc il y a la glace en profondeur, c'est sûr. Ce qui est merveilleux dans cette aventure Rosetta, c'est qu'on suit l'évolution de la comète. Une comète qui est un objet vivant.
Valérie Charletti, professeure à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et membre de l'équipe Rosetta. Elle répondait à Sophie Becherel. Le temps de ce vendredi 30 septembre, nuageux avec des risques d'averses sur tout le pays, sauf en Midi-Pyrénées et dans le sud-est du pays où le soleil prédominera une bonne partie de la journée. Les températures sont en baisse. Au meilleur de la journée, il fera entre 18 et 24 degrés sur la moitié nord du pays, de 22 à 28 au sud, Guillaume Erner.